Et ses micros, Jean-Pierre.
Un limerick de Saint-Just. Il était un vieux gars d'Aubière, sans eczéma ni urticaire, qui souvent, pour se soulager, de démangeaisons cutanées, se grattait les couilles et le derrière. Fidèle auditrice, fidèle auditeur, bonjour ou bonsoir. Vous êtes sur CFM et vous écoutez Sexygénaires et compagnie. Une émission forcepsisée par Jean-Pierre avec l'estimable collaboration au micro et aux manettes de Thomas. Le premier courriel de la semaine est envoyé de Bagnolet. Monsieur Jean-Pierre, je veux protester contre la vandalisation du plug anal de Paul McCartney. En effet, cette sculpture, cise symboliquement place Vendôme, royaume des joailliers, où les riches vont des emplettes de bijoux hors prix, glorifier la lutte des classes. En clair, les nantis nous la mettent bien profond, et ils le clament haut et fort en érigeant cette statue en ce lieu emblématique de leur turpitude. Cette turgescence aurait pu servir de détonateur à une révolte des smicards, sans dents et autres gibiers de Pôle emploi, voire des classes moyennes abruties d'impôts. Je suis persuadé que cette destruction est l'œuvre des valets du grand capital et autres crypto-libéraux de sinistre mémoire. Bien à vous, Lev Davidovitch Dupont, Bagnolet, 9-3. Poursuivre, un courriel envoyé par Lucien Baillet, Tarn-et-Garonne.
Jean-Pierre, je demande un droit de réponse suite à la dernière chronique de Philippe Le Nîmois. Monsieur, oui, vous Philippe Le Nîmois, dont d'ordinaire j'apprécie la chronique. Quelle vilaine mouche vous a piqué la semaine dernière. Votre mépris affiché pour la presse régionale nous a profondément meurtri. Nous, les lecteurs de ladite presse régionale, votre culture citadine vous aveugle sur les mérites de ces journaux. Certes, on n'y disserte pas sur Kant et l'ontologie, Marx et ses amourancières, ces journalistes ne sont pas invités à l'Élysée ou chez Attali, non, rien de cela. Mais cette presse parle de nous, nous rassemble, elle parle de nos fêtes, de nos jeux, de nos sportifs, parfois de nos luttes. Nos expatriés retrouvent leur pays dans ces pages. Monsieur, dont j'apprécie la chronique, à l'exception de la dernière, cette presse n'est pas pour les citadins, elle est faite pour nous. A bientôt le plaisir de vous entendre, cordialement, Lucien Baillet.
Déjà ? Bon, allez, vas-y, 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 Thomas.
Jean-Pierre. Quel sujet de choix tu nous lègues aujourd'hui en parlant d'égalité, d'inégalité, de différence et de points communs. Peut-être as-tu remarqué depuis que l'on se connaît que lorsque tu me salues, c'est mon nombril qui te sourit. Car oui, je suis grand, et cette tribune de choix que tu me réserves chaque semaine sera aujourd'hui le champ de bataille où mon bras armé abattra sa terrible colère contre le discriminant qui, levant les yeux, me prend de haut. Moi, le grand, la gigue, le géant, le grand dadé, la grande saucisse ou encore le double maître, m'adresse à vous, jeunes hobbits auditeurs du sexy man, dit Jean-Pierre. J'aimerais clarifier avec vous quelques petits différends qui vous habitent et me rendent farouche à votre rencontre. Non, petits hommes, je ne fais pas de basket et non, je ne porte pas de chaussures taille 50. Il est vrai que je possède toutefois de longs membres, quand vous, petits hommes, vous sentez grands avec vos blagounettes vues et revues au ras des pâquerettes. Fait-il bon là-haut ? Peut-être que ton nez face à mon cul moleste ? Et toi, jeune idiote prénommé Lola, est-il utile de préciser que traiter l'homme d'horriblement grand rend ta personne horripileusement détestable ? On dit souvent que le petit est teigneux. Preuve en est, le voilà numéro 1 lorsqu'il s'agit de remarquer son contraire chez son interlocuteur. A l'inverse, croisant mes mots, le grand surplombe tes propos, calme et distant, car il saura garder en tête que quand toi, tu tentes de rabaisser la gigue, la gigue te voit et observe la calvitie naissante de ton crâne de bof qu'il imagine également neuronal. Sachez bien, petits hommes, que demain, outre la grandeur qu'a priori vous n'atteindrez jamais, autre malheur vous guette, qui sait si demain vous ne serez pas le dindon d'une autre farce, celle du binoclard, du chauve, du sans-dents ou du cocu. Et si cela venait à se reproduire, le grand ne sera pas là pour vous descendre, car bien que proche de l'ami Avrel, le grand saura que l'égalité passe avant tout par l'acceptation de l'autre dans sa différence.
Eh oui, Thomas, l'égalité génétique n'existe pas. Si tu es trop grand, trop gros, trop petit, le monde ne sera pas beau, pas gentil pour toi.
C'est dur, hein ? Non, je dis c'est dur.
Oui.
Hein ?
C'est très dur.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris,
quand ça gueule ou ça que lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri et je pense à Jésus-Christ, celui qu'a dans le ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la fraîcheur de la nuit, je me sens tout attendri en pensant à Jésus-Christ, celui qu'a ça jordanise, quand le pauvre fédayen copie par bêtise la prose à Monsieur Jourdain. Quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix et se désaltère avec un demi-biafrais. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ, celui qui a
je reviens sur l'inégalité génétique. Si tu fais 1m80, des biceps plein les manches, si tu es blond, les yeux bleus ou à la rigueur vert, si tu as moins de 50 ans, un boulot, du fric, tu seras mieux barré que la majorité des gens. Alors pour compenser dans sa grande sagesse, notre merveilleuse République prône l'égalité sociale. Des paroles, des écrits en masse. Les faits, l'égalité homme-femme n'existe toujours pas. L'égalité civique, du pipeau. Les privilèges de nos élus du patronat n'ont jamais été plus scandaleux. L'égalité sociale, du pipeau. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux. L'égalité des chances, du pipeau. Si tu es black ou beurre, né en Seine-Saint-Denis, tu as une chance sur 1 million de t'en tirer. Et tout ça parce que nos élus se foutent du peuple, les patrons se foutent de leurs employés. Une citation de Clémenceau me vient à l'esprit. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Tout est dit. Ouf, changeons de registre. Dans ce cas-là, elle est parfaite, la Paulette, la blague de Paulette.
Paulette, Paulette, tu es la reine des pourquêteux.
Paulette ! Didier, 75 ans, va voir son médecin pour une analyse de sperme. Son médecin lui donne un petit flacon stérile et lui dit de revenir le lendemain pour l'analyse. Le lendemain, Didier lui remet le flacon, vide et propre. Le médecin lui demande « Pourquoi ?»«
Eh bien voilà docteur, j'ai essayé avec la main droite, sans succès. J'ai essayé avec la main gauche, rien non plus. Alors j'ai demandé à ma femme de m'aider, elle a essayé avec la main droite, puis la main gauche, toujours rien. Ensuite elle a essayé avec la bouche, avec ses dents, sans ses dents, échec. Alors on a demandé à la jeune voisine qui a essayé avec la main droite, la main gauche, avec sa bouche. »
Le médecin choqué l'interrompt. « Vous avez même demandé l'aide de la voisine ?»«
Eh oui, docteur, on a tout essayé et on n'a toujours pas pu ouvrir ce putain de flacon.
» Il donne dans la spéléo, Hercule Poivreau. À toi, Hercule, pour cette coloscopie.
Salut, c'est Hercule. Aujourd'hui, pénurie d'ophtalmologues, les proctologues sont à la peine. Tous les porteurs de lunettes et autres déficients visuels le savent, obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue relève du miracle. Moi-même, il m'a fallu patienter 4 mois pour bénéficier d'un examen après une douzaine de coups de fil. Certains praticiens ne décrochent même plus, laissant le soin à leur répondeur téléphonique de vous informer que leur carnet de rendez-vous est plein. Quelques temps après, je découvre, grâce à mes lunettes flambant neuves, le pacte de responsabilité et ses 50 milliards d'économies opérées par ponctions successives sur mon compte en banque. J'ai aussitôt éprouvé des démangeaisons dans le fondement et décidé de consulter un proctologue. À ma grande surprise, j'étais reçu dès le lendemain. Après l'examen, qui a révélé une hernie fiscale au stade 4, mais dont les douleurs devraient s'atténuer avec l'application de vaseline médicinale 3 fois par jour, j'ai demandé au praticien ce qu'il pensait de cette situation contrastée entre les deux professions médicales. « C'est tout à fait normal », m'a-t-il répondu. « La pénurie d'ophtalmologues favorise l'aveuglement général. Les magouilles, les promesses non tenues, les escroqueries, cahuzacries et autres thévenoudisations créent une sorte de brouillard, et les gens finissent par ne plus rien voir. » Les patients ne ressentent plus aucune douleur et désertent nos cabinets, ce qui explique que j'ai pu vous recevoir de suite. En revanche, dès qu'ils réussissent à s'offrir de nouveaux verres correcteurs, le brouillard disparaît. Résultat, ils ont de plus en plus mal au cul et viennent dans nos salles d'attente. Nous leur apportons un soulagement immédiat, contrairement à nos collègues ophtalmologues. Vous avez vu le prix des lunettes ? Nous, avec un peu de talc et 2 thunes de vaseline dans le bastringue, on vous soulage illico. Oui, mais quand même, voir clair, c'est indispensable, non ? Vous plaisantez ? Je vois que vous avez des lunettes neuves qui vous ont coûté une fortune. Ce faisant, vous avez acquis une grave clairvoyance qui a déclenché immédiatement cette hernie fiscale, conséquence certaine de votre lucidité retrouvée. Nous, proctologues, le savons bien. Par les temps qui courent, la lucidité est une maladie invalidante. Mais que dois-je faire ? Utilisez le moins possible vos lunettes et revenez me voir la semaine prochaine. Ça fait 150 euros, ne me remerciez pas. Hein ? 150 euros pour 10 minutes d'examen ? Je sens les douleurs qui reviennent. Que voulez-vous ? Il me faut bien vivre. Mon conseiller en optimisation fiscale me coûte une fortune.
Merci Hercule.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire.
Sans transition, je l'ai lu dans les journaux, vu à la télé ou sur le net, entendu à la radio, donc c'est vrai, non ? Musique maestro pour les guignols qui nous gouvernent, qui nous ont gouvernés, qui nous gouverneront. Fleur Pellerin, ministre de la Culture, ne peut citer un seul livre de Patrick Modiano, notre prix Nobel. De plus, elle avoue ne pas lire beaucoup.
Jean-Pierre, tu peux me citer un livre de Patrick Modiano ?
Non.
Moi non plus ! Alors on peut être ministre de la Culture ?
Non, moi je lis beaucoup.
Merde, moi aussi, tant pis.
Le député UMP, Gilles Carrès, membre de la commission des finances de l'Assemblée, celui-là même qui fut à l'origine de l'abattement de 30% sur les résidences principales, n'a pas payé l'ISF sur sa résidence principale depuis 2011.
Bon, c'est pas bien ça, hein ?
Non, pas bien. Seine-Saint-Denis, Maxence, élu Front National de Noisy-le-Grand, s'est converti à l'islam.
Et ils l'ont accepté, ça ?
Ouais, surprenant, non ? Que se passe-t-il dans le monde de Marine Le Pen ? Cette grande humaniste a déclaré à Calais : « Il faut renvoyer tous les migrants, même dans les pays en guerre. »
Oh, pas beau ça.
Non, pas beau. 20 000 chômeurs en plus en septembre. Le ministre du Travail, Rebsamen, déclare « ça ira mieux mi-2015
oh, ». Ils osent tout, hein.
Ouais. Le Parti Socialiste est une grande cour de récréation. Bartolone dit à Manuel Valls
« Je vais te piquer ta place, la 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 l'air ».
Martine Aubry colle une beigne à Manuel Valls et à François Hollande. La politique du gouvernement est nulle. Manuel Valls réplique et la traite de vieille archaïque et crie
« Où les cornes ? Elle a un surmoi marxiste !»
Même pas vrai, dit Martine, je vais le dire à mon papa Delors. Et puis d'abord, Manuel, toi et François, vous avez tout faux, vous êtes la catastrophe de la République. Dans son coin, François fait des bulles en balbutiant. Quant à Arnaud Montebourg, il est puni, au piqué. En vrac, Alain Soral et Dieudonné lancent leur parti.
Parti IES ?
Non, malheureusement. Aussi cons que les extrémistes islamistes, les ultra-orthodoxes juifs, qui se battent contre la campagne égalité hommes-femmes à Jérusalem. Ah, cocorico, la France est en deuxième position pour la consommation de vin, 42 litres par habitant et par an. En première position, le Vatican, 72 litres. Ah François,
tu es des nôtres, tu as bu ton verre comme les autres.
Il est temps d'écouter notre Nîmois préféré. À toi, Philippe.
Chers amis Cordaise et Cordais, bonjour. Une question. Qui se souvient de Jules Moche, le bien nommé ? En tant que ministre socialiste de l'Intérieur, en 1947, il a été confronté à une grève des mineurs déclenché en 1947. Pour contrer la grève, il mobilise 60 000 CRS et soldats qui se heurtent aux 15 000 grévistes retranchés dans les puits et leur impose fin novembre 48 une cuisante reprise du travail. La répression est très sévère, plus de 3 000 licenciements, 6 morts, de nombreux blessés. La conscience ouvrière et celle des mineurs, l'une des plus nobles, en restera marquée à jamais. Eh bien, comme il y a parfois, dans la presse de bonnes nouvelles, 65 ans après, l'injustice faite aux mineurs grévistes de la Grand Combe, dans le Gard, sera bientôt réparée grâce à leur lutte opiniâtre et à Christiane Taubira, qui a toujours dit vouloir réparer l'injustice faite aux mineurs de 1948 à 1952 et qui a tenu parole. À la Grand Combe, dans le Gard, donc, ancien bassin minier, ils étaient encore 6 en 2011. Les anciens mineurs grévistes, révoqués de 48 à 52, se félicitaient alors, en 2011, d'un jugement favorable à leurs camarades du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4, âgés de 87 à 91 ans. Et enfin, ils commencent à entrevoir le dénouement heureux du combat de leur vie. Retour en 67. En octobre 48, la France minière s'embrase. Dans le Nord-Pas-de-Calais, en Cévennes, mais aussi en Nord-Aveyron, les gueules noires se mettent en grève pour dénoncer des salaires de misère alors que les prix flambent. Tous les puits étaient à l'arrêt, raconte aujourd'hui l'un des quatre, Aimé Cussac, 22 ans à l'époque. On a concentré nos forces sur le puits Ricard qu'on a occupé une quinzaine de jours. Puis les CRS sont intervenus et on a eu un affrontement grave. Autour du 20 octobre, les combats font rage entre les forces de l'ordre et les mineurs. Chulmoche envoie la troupe. Le 26, lors d'une manifestation à Alès, un maçon solidaire des grévistes est tué par des tirs de mitrailleuse. Éreinté, au bout de 56 jours de grève, les mineurs reprennent le travail. La répression est très sévère. À la Grand Combe, on a dû être une trentaine de révoqués. On a perdu notre boulot. On a eu droit à un interrogatoire musclé et on a emprisonné, explique Aimé Cussac, l'un des quatre encore vivants. Une autre grève aura lieu 4 ans plus tard, à laquelle participeront 2 des 4 qui étaient alors encore en activité. Les mineurs sont restés carrément au fond de la mine durant 21 jours, raconte Vincent. On nous descendait la bouffe quotidiennement. Là aussi, les sanctions pleuvent. Les quatre perdront leur boulot à la société des houillères, un long chemin de croix. Fini les avantages concernant le logement, le chauffage, la médecine gratuite. Quant au travail, il passera d'abord par une entreprise sous-traitante des houillères avant une réintégration au plus bas de l'échelle en 1974. Toute une vie de combat, les révoqués s'apprêtent enfin à tirer un trait sur cette époque. Mais avant de sabrer le champagne, les bannis d'hier attendent que les paroles se transforment en actes. Je les cite. C'est une victoire, c'est sûr, on n'a encore rien touché, même si ce n'est pas le plus important. Vous savez, c'est énorme ce qu'on a fait. On a été exclus pendant 26 ans, maintenant nous sommes réhabilités. La lutte paye. Les mineurs sont des ouvriers admirables. Bonne semaine, ami Cordet.
Merci, Philippe. Dernière rubrique, nos devinettes débiles. Pourquoi a-t-on inventé des capotes à la mayonnaise ?
Oh, c'est pour mieux baiser les temps ! Les coccinelles sont des coléoptères, n'est-ce pas ? Et les morpions ?
Des collés aux couilles ! Une fourchette, c'est une petite fourche. Une barrette, c'est une petite barre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une salopette ? Quelle est la différence entre une fille sage et une fille bien ? Réponse.
La fille sage accepte un rendez-vous, rentre à la maison et va au lit. La fille bien accepte un rendez-vous, va au lit et rentre à la maison.
Savez-vous pourquoi les schtroumpfs sont bleus ?
Parce que leurs culottes sont trop serrées ! Qu'est-ce qu'on donne à un éléphant qui a la diarrhée ?
Beaucoup, mais alors beaucoup de place ! Et de loin ma préférée. Qu'est-ce qui est tout noir et qui a sa queue à 2 mètres sous terre ?
Une veuve ! C'est très con.
Pour terminer, une citation de Balzac. L'égalité peut être un droit, mais aucune puissance humaine ne saurait la convertir en fait. Eh bien, bonsoir l'auditeur et bis à ta femme.